Dans cette émission consacrée à la BD, eh bien c'est le moment de faire un zoom sur ceux qui nous font la joie de nous présenter leur dernier album en avant-première ici à Tours. Fanch de l'équipe d'À Tour de Bulle vient de nous rejoindre, bonjour.
Salut.
Alors on reçoit donc deux albums qui vont sortir la semaine prochaine. Deux albums qui se ressemblent un petit peu sur les thématiques, parce que c'est une thématique espagnole pour les deux, une thématique de crise aussi, une thématique aussi militante. Puis bah écoutez, je vais les laisser se présenter. À toi la parole, Chris.
Ah, c'est moi le premier. Bon, alors bonjour Chris, pas du tout espagnol, mais brestois, c'est presque pareil. Et puis je suis scénariste depuis une quinzaine d'années maintenant, autour de souvent de l'histoire effectivement, et si ce n'est d'albums militants, en tout cas autour de la militance, voilà. Et puis je viens de parler de Nuit Noire sur Brest, qui sort effectivement la semaine prochaine et qui est en avant-première ici au Festival de Tours.
Alors moi c'est, bonjour à tous, c'est Bertrand Gallic. Brestois également et scénariste depuis 4 ans là, et j'ai commis donc avec Chris et Damien Cuvillier Nuit Noire sur Brest.
Moi je suis Juan Díaz Canales, je ne suis pas brestois, on peut deviner pour la scène, c'est plutôt un auteur espagnol qui suit notamment les scénaristes de Black Sad, les nouveaux Corto Maltese, et je suis ici pour présenter une avant-première, mon premier album solo qui s'appelle Au fil de l'eau.
Alors une petite chose aussi, il y en a un, il est ni breton ni espagnol, mais on l'aime bien quand même, c'est Cuvillier, Damien Cuvillier. Alors il n'est pas là parce qu'il est en train de dédicacer, Chris ne l'a pas laissé poser les crayons, donc il continue la cadence.
Il est dessinateur, un dessinateur ne parle pas, comme chacun le sait. En réalité c'est lui, hein. Il a fait son timide, et puis c'est vrai qu'il y a du monde, donc voilà, on l'a
beaucoup,
laissé
beaucoup
fidèle au poste.
Alors, pas breton, mais je crois qu'il avait eu le prix 2014 à Quai des Bulles, coup de cœur, donc ça compte un peu. On l'aime bien.
Oh oui, ça compte. Hein. Puis, de toute façon, un jour à Brest pour toujours. Hein, ouais. Tu es bien placé pour savoir de quoi on parle.
Exactement. Alors, du coup, bon, on va pas se le cacher, les deux albums sont hyper attendus. Vous allez enchaîner les presses à droite à gauche. D'ailleurs, j'ai pu entendre la voix merveilleuse de Chris sur France Inter il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça a déjà commencé. Ce que je vous propose, parce que ça va être assez rare de vous avoir tous les trois en même temps, c'est de parler de choses qui se ressemblent dans l'album. Et la première chose, ça sera l'Espagne en crise. Alors, une Espagne en crise contemporaine pour toi, Juan, et plus historique pour nos deux compères. Donc, je te laisse parler de ça, et notamment de ce côté crise, mais aussi espoir qu'on retrouve dans les personnages, notamment dans les personnages jeunes, qui ont retrouvé la foi un petit peu. Ils refont des bébés, ils y croient. Je te laisse nous voir pourquoi cette thématique.
Ok. Tout d'abord, j'aime pas beaucoup de parler de la crise espagnole, parce que je pense que la crise touche un peu partout. Ça veut dire que si c'est vrai que plus au sud, la crise frappe plus. C'est toujours comme ça. Mais chaque fois que je viens en France, par exemple, la problématique, c'est pareil là, ce qu'on trouve en Espagne. Ça veut dire les chômages, ça veut dire à quel point le capitalisme a fait que le système de protection sociale ça tombe par terre. Bref, c'est une thématique qui me touche et que j'ai essayé d'utiliser pas comme le sujet principal de mon album, mais sur le fond, parce que c'est important. C'est important de laisser les témoins de ce qu'on vit à chaque moment. Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en avant.
D'accord. Alors, je vais m'adresser maintenant à Chris et Bertrand. Très pointu sur l'histoire contemporaine de Brest. Et pourtant, je crois que vous avez découvert cette histoire dans le livre de Patrick Goulet. Vous ne la connaissiez pas? Alors, vous pouvez déjà la raconter et voir si Juan, tu connaissais cette petite histoire qui s'est passée à Brest, qui est une histoire réelle.
Oui, c'est une histoire qui avait fait les gros titres dans les années 30, qui est complètement oubliée aujourd'hui, qu'on a redécouvert grâce aux recherches effectivement de Patrick Gourlet. C'est l'histoire d'un sous-marin républicain espagnol qui atterrit à Brest en 1937, donc en pleine guerre d'Espagne, suite à une avarie, et il a dû fuir la côte nord espagnole suite à l'arrivée des troupes franquistes. Et donc ce sous-marin qui atterrit au port de Brest pose évidemment très vite beaucoup de soucis, parce qu'il peut pas repartir, il faut le réparer pour ça, mais le réparer, ça veut dire pour la France intervenir, alors que le principe de neutralité dans le conflit espagnol a été accepté et presque obligatoire pour éviter que la France elle-même ne tombe dans une quasi-guerre civile. Et ce sous-marin est important pour les Espagnols parce que les franquistes n'ont pas de sous-marin et que les pays occidentaux ont mis un blocus quand même autour de l'Espagne. Et donc Franco va chercher à récupérer ce sous-marin en montant un commando qui mélange évidemment des soldats franquistes, mais également des militants de l'extrême droite française, notamment de la cagoule, et à charge pour eux de s'emparer de ce sous-marin et de s'enfuir avec lui pour le ramener en Espagne. Sauf que ce commando, qui est composé d'une douzaine de membres à peu près, et ben dans le commando, il y a une taupe. Et cette taupe, qui est un espion anarchiste, hein, donc un espion qui se bat pour une cause, non pas pour un pays, on n'a jamais su qui c'était. Il signait ses courriers du simple surnom de Itidis, ce qui a permis d'en faire pour nous notre personnage principal de l'histoire. Et cet espion a prévenu les milieux militants brestois, communistes et anarchistes, qui ont donc défendu le sous-marin. Voilà, c'est le pitch à peu près du récit, qui est effectivement une histoire qui a ensuite été recouverte par la Seconde Guerre mondiale et par la destruction de Brest, etc., qui était complètement oubliée et qui était évidemment à la fois géniale en termes de récit à raconter et qui évoquait évidemment plein de choses toujours actuelles aujourd'hui, et notamment la crise des valeurs républicaines face à une montée de l'extrême droite. Très résumé.
Donc, une histoire républicaine, et d'ailleurs, dans ton album, Juan, la famille centrale est une famille républicaine.
Oui, forcément, ça se sont passés pas vraiment des années, donc il restait beaucoup de familles qui ont des histoires qui viennent de loin, qui viennent de la chute de la République en Espagne après la guerre civile. Donc pendant pas mal de temps, ils se sont tombés dans les complets silences, et maintenant on peut parler plus avec de la liberté. Mais en tout cas, j'ai toujours un peu de peur de tomber dans le manichéisme avec cette histoire, parce que c'est assez facile de tomber dans une espèce d'idée de revanche. Donc c'est des matériels, on peut dire, fragiles à utiliser au niveau des récits. Et puis côté l'histoire de Brest, de sous-marins, je ne connaissais pas. C'est étonnant pour moi. J'ai subconscient qu'il y a pas mal d'histoires pareilles, parce que d'abord, la guerre d'Espagne a été l'avant-première, on peut dire, de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est vrai que les Franco n'avaient pas ni de sous-marins, ni de bateaux. Donc, on peut partout, il doit avoir des petites histoires comme ça.
D'accord. Alors, Juan, tu es entouré de deux co-scénaristes. On va pas se cacher, tu es hyper connu en tant que scénariste, notamment Black Sad, puis maintenant tu récupères Colto Martes. Mais Au fil de l'eau est ton premier album complet, scénariste plus dessin. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles ont été les difficultés? Et c'était un vrai choix de passer auteur complet?
Oui, qu'est-ce qui m'a apporté, c'est de la joie, parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et je suis dessinateur depuis plus de 25 années, mais dessinateur de dessins animés. Mais j'avais vraiment envie, j'ai toujours adoré la BD, mais en même temps, c'est vrai que j'avais du peur, un certain bloqué. Parce que les dessins animés, c'est, on peut dire, plus facile. Tu travailles toujours avec des matériels qui viennent déjà faits par des autres artistes. Il y a beaucoup d'aide, on peut dire. Mais par contre, dessiner toi-même un album, ça demande de créer un univers graphique. C'est pas du tout évident, c'est assez compliqué. Et bon, mais finalement, j'ai pris les courages et j'ai vraiment m'amusé avec l'expérience.
D'accord, merci. Alors Bertrand, il y a une particularité sur Nuit Noire sur Bresse, c'est que vous êtes en co-scénariste avec Chris. Alors c'est quelque chose qui peut étonner, pour moi, par exemple, c'est étonnant. C'est pas une première pour vous, puisque tu es parti sur Cheval d'Orgueil d'abord, ton premier album.
Ouais, tout à fait.
Faisait vraiment, je crois qu'il touchait vraiment.
Oui, pour diverses raisons.
Voilà. Et deuxième album, tu étais déjà en co-scénariste avec, avec Chris sur Un maillot pour l'Algérie.
Exactement.
Et là, du coup, tu renouvelles l'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et puis, les difficultés d'être en co-scénariste ou les avantages et le fait de travailler avec Chris?
C'est
qui répond toujours aux SMS.
C'est malin.
Les deux choses sont très différentes.
Les difficultés et les joies du co-scénario. On ne gagne pas du temps du tout en écrivant à deux. Je pense qu'on va gagner par contre en qualité. Il y a un enrichissement qui est mutuel, un regard critique. Mon co-scénariste est mon premier relecteur et premier critique. Donc c'est un truc vraiment génial. Pour la démarche sur la façon de faire, une fois qu'on a débusqué le sujet rare comme celui de Nuit Noire sur Brest par exemple, Nuit Noire sur Brest, eh bien on constitue ensemble ce qu'on appelle le séquencier, le scène à scène qu'on bâtit au fur et à mesure. On se bloque des journées pour ça, puis vient le temps du découpage plus précis, page à page, case à case, et là c'est à tour de rôle en fait. On se distribue les scènes en fonction de nos envies, nos plannings aussi, hein, qu'il faut prendre en compte. Et quand Chris écrit une scène, pour s'il commence par exemple un album, il me la renvoie, je relis, j'amende, je propose peut-être autre chose. Et on essaye de se mettre d'accord à la virgule près, on peut prendre du temps, hein, pour une virgule. Et quand tout est OK pour nous, quand on est d'accord à 100%, on envoie le travail au dessinateur.
D'accord.
Voilà. Et à chaque étape, en fait, on se consulte. C'est un échange qui est réellement permanent. C'est du ping-pong. Et je dis pas ça juste parce que Chris est un pongiste d'exception.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, pour Chris, parler de Brest à travers la BD, c'est pas une nouveauté. On se souvient d'Un homme est mort, hein, qui était un super album et qui est toujours un super album. Mais pour toi, c'est une première approche de parler de ta ville, la cité du Ponant. Qu'est-ce que ça fait?
Ça prend aux tripes, hein, réellement, parce que je suis pas brestois de naissance.
Je
suis l'orientais de naissance, je suis brestois par la branche maternelle, on va dire. Et oui, c'est carrément quelque chose. On est très content d'être à Tours, mais on a aussi très très hâte d'avoir les retours des brestois maintenant.
Bien sûr. Toi, Juan, pour ton premier album en tour complet, t'as choisi ta ville, Madrid, et même t'as choisi ton quartier, le centre-ville, comme théâtre. Pourquoi?
C'est une question de... J'ai cherché d'être le plus bien à l'aise possible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, les Noirs et Blancs, que j'ai toujours adoré. C'est un code graphique que je ne vais pas dire que je maîtrise, mais avec lequel je suis très bien à l'aise. Et pareil avec Madrid, si je veux parler d'un truc que je connais bien, je dois parler de la ville où j'habite. Et puis, pour moi, dans ces récits-là, c'était très important que la ville devienne un personnage plus. Et pour ça, c'est le plus évident de travailler avec les décors que tu connais par cœur.
D'accord.
J'ai l'impression que le point commun entre vous trois, c'est que vous êtes des activistes de la bande dessinée, mais pas la bande dessinée qui ne fait que divertir, la bande dessinée qui informe aussi, qui donne un écho à l'actualité d'aujourd'hui par rapport à notre histoire. Je me trompe?
C'est le plus intéressant. Enfin, je pense que déjà, on écrit en général avec vraiment tout ce qu'on est. Donc, un sujet, avant tout, il doit nous toucher, il doit nous remuer quelque part. On peut faire un sujet de fantaisie parce qu'on adore l'aventure et l'épaisement, la magie, tout ça qu'il peut y avoir là-dedans. J'aimerais bien refaire d'ailleurs des récits de genre. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'un récit, même historique, me parle du monde d'aujourd'hui. Et quand on travaille, par exemple, un sujet comme Nuit Noire, Nuit Noire, c'est aussi l'histoire des réfugiés espagnols qui arrivent en France et qui se retrouvent là, bloqués, en espérant un retour au pays qu'ils croient fermement à court terme pour beaucoup d'entre eux, notamment arrivés en 1944-45. Hein, ils pensent que l'étape suivante, ça va être de reconquérir l'Espagne. Et puis, ben non, ils sont restés là. Et quand on lit les articles de l'époque, la façon dont on les a accueillis, comment ça a été reçu, à tous les degrés divers, on retrouve exactement ce qu'on veille aujourd'hui avec les réfugiés syriens ou autres qui fuient les pays en guerre, que si on renvoie chez eux, ils vont y passer. Et c'était le cas des républicains espagnols, on le sait très bien. Et avec, on demande aux communes bretonnes, par exemple, chacun d'accueillir 5 ou 10 familles ou autres. Alors il y a des résistances, il y a évidemment, mais ils parlent pas la langue, mais avec le recul de l'histoire maintenant, on sait que ces gens-là aujourd'hui font partie de l'histoire française, que Paris a été libéré par la Nouébé, notamment une compagnie espagnole de la 2e DB, etc. Donc ces types-là se sont intégrés en France. Alors que franchement, on pourrait copier-coller les textes de l'époque et les placer aujourd'hui sont les mêmes.
Et puis maintenant, on pourrait parler de la suite, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, Chris, que tu t'interdisais pas peut-être de passer au-delà du one-shot sur ces personnages.
Oui, avec Bertrand, ça a été une envie assez rapide. Ce personnage de X10 qu'on a finalement créé fictionnellement, parce qu'on a assez peu d'éléments sur lui, si ce n'est qu'il était espion, anarchiste et qu'il signait X10. Donc on lui a bâti toute une chronologie, une biographie imaginaire, qui nous plaît beaucoup à Bertrand et moi. Et on pense lui faire vivre d'autres aventures de faits réels à nouveau, d'espionnage dans les années 20-30, mais d'espionnage militant. Voilà, on va le faire traverser un peu toute cette Europe en crise des années 20-30.
Et toi, Juan ? C'est ton premier album complet. Qu'est-ce que tu aurais envie pour la suite ? Est-ce que c'est une expérience à renouveler ?
Tout à fait. La seule limite, c'est le temps. Hein, parce qu'avec deux séries en courant, Corto et Black Sad, et puis des autres projets qui tombent parfois, comme par exemple un projet que j'ai avec... que j'ai co-scénarisé aussi avec ma femme Teresa Valero et qui va être dessinée par Antonio Lapone, qui sortira au début de 2018. Bon, bref, il y a beaucoup de projets, donc si je trouve le temps pour consacrer à un nouvel opus en solo, je ferai, parce que j'adore ça. Mais on verra.
J'ai envie de demander à Juan de nous donner un aperçu de la bande dessinée espagnole. Qu'est-ce qui s'y passe ?
Bon, en général, c'est un marché qui est très actif, mais en même temps, c'est un marché minoritaire par rapport à le marché franco-belge. Ça veut dire que si tu, tant qu'amateur, tu peux trouver dans les librairies spécialisées ou même dans les librairies généralistes presque tous les albums que tu veux, soit des européens que comics ou manga. Mais au niveau professionnel, comme les marchés restent encore très minoritaires, tu ne peux pas vivre de ton métier. Donc c'est pour ça que la plupart des auteurs espagnols bossent pour les marchés franco-belges ou les marchés américains.
Et la BD brestoise, elle est en pleine effervescence en ce moment.
Oui, c'est clairement une référence à la revue Casier, je pense.
Exactement. J'ai reçu hier, voilà, je te remercie.
Je t'en prie. Donc il y a un collectif d'auteurs en fait qui s'est monté il y a plus ou moins un an maintenant, avec l'appui d'une asso qui s'appelle Brest en Bulle.
Et donc, tu fais partie ?
Dont je fais partie, oui. Et donc, ce collectif a créé une revue, donc ça s'appelle Casier. C'est une revue qui parle de Brest. Et donc, le premier numéro, là, sort le 22 septembre prochain. Voilà, j'ai personnellement écrit une histoire pour Florent Calvez, où il est aussi question d'espionnage.
Et si vous aviez une question à poser à Juan, Chris ?
Ah ouais, il y en aurait beaucoup, parce que sa reprise de Corto Maltese, évidemment, m'a beaucoup intrigué, parce que ça aurait fait rêver beaucoup de scénaristes. Alors on peut toujours dire que ça doit être un poids sur les épaules, mais en réalité, j'imagine que tu l'as pas accueilli comme ça, mais plutôt comme une vraie chance. La démarche, elle est venue de toi pour relancer la série, ou l'éditeur cherchant un scénariste, il a pensé à toi. Alors par rapport à Black Sad, évidemment, on est très éloigné. Donc comment un peu ça s'est fait cette histoire, cette collaboration?
En fait, j'aurais jamais osé de me proposer à faire ça. Donc ça a tombé un peu par hasard. Ça a été l'agent droit, Patricia Zanotti. Elle était aussi mon ancienne éditrice de Black Sad en Italie. Donc on se connaît depuis pas mal d'années. On avait déjà une relation professionnelle. Et à l'occasion du festival de Lucca, au moment donné que Patricia a décidé de faire continuation de la série, elle m'a proposé d'écrire le scénario. Et moi, j'ai dit oui, tout de suite. Parce que, en fait, j'ai toujours adoré Corto, et pour moi, c'est vraiment important au niveau peut dire émotionnel. C'est un personnage qui m'a provoqué le déclic de dire moi je veux devenir auteur BD. Alors ça tombait bien, et puis j'ai proposé à Rubén Pellejero comme dessinateur parce que j'ai trouvé que c'est le dessinateur le plus approprié. Et voilà, on a fait un petit test et tout ça passait bien jusqu'à ce moment.
Je peux en poser une à Juan aussi,
vas-y,
parce que je suis un fan absolu de Corto également, mais je suis un inconditionnel de Black Sad.
Ah oui.
Alors c'est le prochain, Juan?
Quand le prochain? C'est une question qu'il faut poser à Guarnido. Parce que moi je suis en train d'écrire les prochains scénarios. Qu'en fait, notre projet, c'est de développer l'histoire d'un diptyque, de Saloum. Et puis, Juanjo, lui, est en train de faire un one-shot chez Delcourt. Donc, il attend qu'il finisse pour attaquer l'ensemble de l'album.
D'accord.
Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau. Et surtout, merci pour ces deux très beaux albums qui sont en avant-première ici à Tours, au festival à Tours de Bulle. Bon festival à vous.
Merci.
Nouvelle pause musicale en direct du festival à Tours de Bulle. On est ensemble jusqu'à 18h avec Powo. Le lion est mort ce soir, mais la bande dessinée, elle, est bien vivante. On revient juste après pour parler des animaux dans la bande dessinée sur Radio Campus Tours.
Terrible jungle, le lion est mort ce soir.